LSD, la série documentaire. Cette semaine, ce qui reste, les mille et une vies de nos objets. Aujourd'hui, quatrième épisode, on est dans un entrepôt.
Alors on est dans le local des Vultensous. En fait, c'est un ancien transformateur électrique désaffecté dans lequel on met nos trouvailles, nos gants, nos sacs, nos cônes pour ramasser les mégots. À côté de vous, vous avez une collecte de mégots, une journée de collecte de mégots, 3000 mégots à peu près.
Fortune de mère.
Là, vous avez un pot de chambre que j'ai trouvé dans la Ria du Conquet. C'est une fabrication de faïence des années 1850. C'est aussi un déchet. Donc voilà, on essaie de garder...
Pourquoi un déchet, alors ?
Parce que, est-ce que vous avez vocation à trouver un pot de chambre sur un littoral ? Non ? Voilà, de temps en temps, on pense à garder les choses pour ensuite les donner à voir. Et là, vous avez quelques trucs des premières années des nettoyages de plage des Vultensous. Vous voyez, on trouvait des vieux morceaux de bois, de bateau. C'était joli, hein. C'est vraiment plus ce qu'on trouve pendant nos nettoyages. Là, c'était presque des objets d'antiquité. C'était des objets touchants. Et maintenant, c'est des objets problématiques.
La plus vieille pièce, même. C'est Charlie qui a trouvé ça, tu l'as vu toi ? Le sifflet de poilu ?
Ouais.
Sifflet de poilu à Porski. Mmh. Donc c'est un peu plus de 100 ans. Quoi. Ça fait un trésor dans le coffret à trésor. Ouais. On n'a pas essayé de siffler dedans, donc je ne peux pas vous dire s'il est.
Alors est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est
C'est un sifflet qui est en.
Ça a l'air du bronze.
Du bronze, hein, je pense, c'est ce qu'on avait l'impression de voir, qui apparemment était le modèle visité dans le paquetage des poilus. Donc c'est un déchet qui a plus de 100 ans. À notre connaissance, c'est le plus vieux déchet qu'on ait trouvé. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'on aurait trouvé des déchets plus vieux, il aurait fallu qu'on contacte l'archéologie maritime. Donc, tout va bien.
Comment vous faites pour reconstituer l'histoire de certains... Vous vous êtes adressé à qui pour ça ?
On a l'œil, on se rend compte qu'on a affaire à des choses anciennes. Donc, quand il s'agit de déchets plastiques, on regarde partout si on trouve une date, un lieu, un nom de marque. Et ensuite, on regarde sur Internet. On a des réseaux de ramasseurs, de nettoyeurs de plage qui connaissent vraiment très 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 bien tous les types de déchets qu'on peut trouver. Et donc en général, quand on ne sait pas ce à quoi on a affaire, ce qui était le cas la première fois qu'on a trouvé notre fameuse petite fiole de la Deuxième Guerre mondiale, une fiole en bakélite, on a posté la photo immédiatement, tout le monde a dit « Ah oui, ça c'est un déchet qu'on trouve dans l'Eure Pas-de-Calais, c'est la fiole du DSS en fait ». Donc très très rapidement, on a des réponses à nos questions. Et ça, en revanche, ça me semblait assez clair que c'était un sifflet militaire. Donc c'est moi-même qui suis allée sur un site de Militaria et qui ai trouvé l'info. Il y a des gens de partout. Il y a même un jeune homme, Fabrice Aaron de Kisangani, qui est en Finlande. Il y a des Américains. Il y a beaucoup, beaucoup d'Espagnols et de Portugais qui font face à des pollutions énormes sur la côte atlantique et qui connaissent donc très, très bien tous ces déchets récurrents qu'on appelle des traceurs ou des marqueurs. Et leur histoire, leur lieu de provenance. En fait, tous les déchets ont une typologie en fait, des déchets qui permet de trouver des lieux et des dates. Nous sommes les Vultensous. C'est une association de nettoyage de plages qui a été fondée il y a 20 ans.
Claire Simonin.
Alors, Vultensous, ça veut dire les coquins. En fait, c'est des sortes de petits elfes des forêts bretonnes, donc qui sont très actifs, très agités. Et voilà, à la base, c'était une bande de jeunes qui avait créé ce truc-là. Les Vultensous nettoient les plages de la pointe du Finistère. D'abord les plages du Conquet, ensuite également les plages de Plougonvelin, la commune limitrophe. Et puis on fait des incartades ailleurs, comme ici à Plouarzel, qui est une autre commune limitrophe. Avec pour principe de se réunir une fois par mois pour faire un nettoyage pendant 2-3 heures. Et ensuite de trier pour compter, pour avoir des données. Et donc on a ces données depuis 20 ans.
On ramasse des choses, des fois, oui, mais qui flottent, quoi. Des choses comme ça, des bouées qui viennent à la côte, qu'on ramasse. Quoi. Je récupère, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas. Qu'est-ce que ça là, quoi.
Mais ça, ça fait partie de... C'était comme ça avant, hein.
Enfin, la fortune de mer, c'est l'idée de quelque chose qui est déposé par la mer, qui donc, comme disait monsieur, n'appartient à personne, c'est une res nullius en droit, donc c'est la chose de tout le monde, puisqu'elle est à personne, et qui a quand même une valeur. Donc effectivement, jadis, même le bois avait une valeur, puisque sur les îles, notamment, il n'y en avait pas du bois. Moi, j'ai 42 ans, j'ai fait ça enfant, parce que c'était la tradition. On est du Conquet dans ma famille. Il y a une arrière-grand-tante qui avait récupéré pendant la guerre des centaines de boîtes de cigarettes. Et elle a fumé jusqu'à sa mort des cigarettes de l'échouage. Et elle avait ramassé des bouteilles de, je sais pas quoi, de Cointreau aussi. Donc il y avait vraiment une tradition comme ça, oui. On a donc au cours de ces années vu l'évolution de la quantité de déchets, de la nature de ces déchets, puisque en ce qui me concerne, j'ai commencé il y a 12 ans, et il y a 12 ans, il n'y avait pas tant de plastique. Maintenant, on a quasiment 100% de nos déchets qui sont des déchets issus de l'industrie pétrolière aujourd'hui. 2019, on a ramassé plus de 2 tonnes de déchets, avec donc la particularité que parfois on ramasse 50 kilos de déchets et qu'en fait c'est 40 000 déchets ou 50 000 déchets. C'est-à-dire que quand vous ramassez des larmes de sirène qui sont ces espèces de toutes petites billes de matière plastique qui servent à déplacer la matière plastique, vous ramassez même pas un gramme. Et nous, ça nous arrive très fréquemment d'en ramasser pendant les nettoyages. Donc le poids n'est pas très significatif. Il faut aussi regarder le volume. En hiver, on trouve beaucoup de déchets de la pêche espagnole, déchets de chalut, des gros morceaux de fil vert, des bacs de pêche, des morceaux de bacs de pêche, des yaourts espagnols, du arroz bomba et plein de déchets espagnols. Donc on pense qu'il y a les chalutiers espagnols qui sont au-delà du rail d'Ouessant, mais juste en face d'ici, et que par le biais d'un jeu de courant, les déchets s'échouent ici. On a des déchets assez anciens aussi en matière plastique, des vieilles bouteilles de solvant, des vieilles bouteilles d'eau en état de déliquescence. Et puis on a vraiment du micro-déchet, c'est-à-dire tout ça qui a été pris dans ce qu'on appelle la gyre atlantique, l'espèce de tourbillon du fond de l'eau, et qui ressort sous forme de broyat de plastique. Et donc quand on regarde le sable avec attention ici, eh bien malheureusement il n'y a pas que du sable. Alors là on est en pleine grande marée, donc le phénomène est un petit peu moins criant, mais néanmoins, si vous regardez la laisse de mer ici, bah, c'est très clair, vous allez avoir, ça c'est typiquement une larme de sirène, donc ces espèces de petites billes de plastique qui servent à l'industrie pétrolière et à l'industrie du recyclage du plastique aussi, puisqu'on fond les plastiques, par exemple en Afrique, et on les transporte sur des vraquiers vers l'Asie. Vous imaginez bien, sur des vraquiers, la déperdition de ces espèces de petites choses qui pèsent moins d'un gramme. Vous avez là aussi un petit morceau de plastique bleu, donc là, a priori, ça doit être un morceau de bouchon de bouteille type bouteille d'Évian, et le morceau fait 7 mm sur 4, et des petits morceaux de billes de polystyrène. Et là, on est presque content parce qu'on a trouvé un morceau de plastique de 40 cm sur 15. Mais c'est complètement marginal. Dans le sac où j'ai ramassé des déchets là en l'espace d'un quart d'heure, eh bien, la grande majorité des choses sont de toutes petites choses. Et vous avez nos déchets traditionnels, vous avez nos amis de la chasse. Ça, parfois, certains nettoyages, on a 50 à 60 cartouches de chasse. Et puis, vous avez le déchet inqualifiable, des morceaux de plastique, on ne sait pas ce que c'est, des morceaux de bac, voilà.
Très clair.
Ah, voilà. Ah, ben, un fil de téléphone Garfield, voilà. Avec sa couleur caractéristique, c'est la plage des fils de téléphone Garfield. Ça pousse ici.
Ouais, on voit qu'on est à côté de la
ouais,
source.
Ouais, exactement. Voilà.
Vous nous racontez, alors, cette histoire ?
Alors en fait, le début de l'histoire, bah, on a du mal à le dater puisqu'on n'a pas réussi à retrouver les documents d'époque, mais il semble que c'est il y a 35 ans à peu près, peut-être plutôt 40, un échouage massif de téléphones en plastique orange à l'effigie de Garfield, le chat des bandes dessinées, qui est arrivé sur les côtes du Pays d'Iroise. Ces téléphones apparemment étaient destinés au marché anglais. À l'époque, il y avait une autorité de régulation des télécoms en Angleterre qui avait donné une autorisation de mise sur le marché à un nombre très restreint de modèles de téléphones, une dizaine. Et donc, il y avait un modèle pour jeunes, et le modèle, c'était le téléphone Garfield. Il semblerait que ces téléphones venaient de la mer méridionale de Chine, donc à destination de l'Angleterre, et que à la faveur d'une tempête pendant l'hiver, donc peut-être en 81, 83, on ne sait pas trop, on a des pistes, mais pas de confirmation, un conteneur qui contenait ces téléphones ainsi que des télévisions et du bois rouge, donc se soit échoué dans le coin, et qu'il y a eu un échouage massif de téléphones, un premier. Et puis ensuite, le téléphone a continué à sortir du conteneur, et donc tout le monde a toujours trouvé régulièrement pendant les opérations de nettoyage des téléphones. Et du coup, en fait, on parlait régulièrement de Garfield entre nous, et quand on avait des assemblées générales de l'asso, on disait toujours, bah quand même, ce Garfield, c'est un sujet intéressant. Alors on a commencé à chercher, on a écrit aux journaux locaux, on a écrit à la société qui est titulaire de la licence Garfield aux États-Unis, on a écrit sur les sites internet de collectionneurs de Garfield, etc., pour leur demander s'ils avaient entendu parler d'une histoire de container, s'ils pouvaient dater, etc. Bon, ça a un peu bougé, mais pas énormément. Et en fait, il y a 2 ans, un paysan qui a sa ferme juste autour, René Morvan, arrive et me dit « C'est toi qui cherches les Garfield ?» Donc je lui dis « Oui », et il me dit « Viens, je t'emmène ». Et il nous a montré la grotte où ce container est étalé, s'encastré. Alors, il n'était pas capable de dater exactement, mais à cause d'un drame familial, il pense que c'était à peu près 35 ans auparavant. Donc lui, il avait souvenir de l'échouage de ce container, qu'une nuit, avec son frère, il était allé explorer la grotte et voir ce qui s'était passé. Qu'il avait trouvé des téléphones en plastique orange, qu'il en avait remonté un, qui était toujours à l'époque chez ses parents, et toujours en état de fonctionnement. Qu'il y avait aussi donc du bois rouge, et qu'il y avait des gens ici sur la commune de Ploirzel qui avaient d'ailleurs fait leur cuisine avec le bois rouge de cet échouage. Et que, bah voilà, ils étaient allés voir le container, ils avaient vu le truc. Bon, le container était dans une grotte, c'était pas très intéressant, il y avait un as sauvé, et puis voilà quoi. Fin de l'histoire. Ils avaient rien dit à personne, et depuis on ramassait des Garfield. Donc là, pour nous, c'est un marqueur très clair de un élément, un événement, et 40 ans après, une pollution qui reste continue avec un seul morceau de container. Donc ça, c'est vertigineux, si vous imaginez qu'on parle aujourd'hui de dizaines ou de centaines de milliers de containers tous les ans. Le problème du déchet généré par le porte-container, c'est que c'est un déchet gris ou noir, enfin d'une certaine manière clandestin. C'est-à-dire que le droit maritime est ainsi fait qu'il y a des accords entre les assureurs qui viennent au soutien des affréteurs et qu'en fait aucun n'a intérêt à ce que les chiffres exacts ressortent et soient connus puisqu'on est dans un système de pollueur-payeur. Donc en fait, s'il n'y a pas de pollueur, il n'y a pas de payeur. Et comme moi je suis affréteur, vous êtes affréteur, tous les deux on a des assureurs, et tous les deux on va faire tomber des trucs à l'eau, si on commence à se retourner les uns contre les autres, eh bien on va faire jaillir ce problème qu'on peut très bien passer sous le boisseau et personne n'en saura rien, et du coup le problème sera inexistant. Ici, bah, on le constate, puisque par exemple cette pollution avec les containers qui se sont échoués dans le Ratzin il y a quelques années, avec ces objets à destination des hôtels, donc des petits plastique qui contenait, qui des tongs, qui un petit matériel de toilette avec une petite lime à ongles, etc. On en a vu énormément juste après ces tempêtes cet hiver-là, mais on en voit toujours. Donc la libération du contenu de ce container continue. Donc qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que la mer a dans ses entrailles? Bah tout ça.
T'as ton couteau?
Donc ici on a un sac. Donc ça, c'est le bruit très caractéristique du plastique des débuts des années 80. Vous entendez plus de plastique qui fasse ce bruit-là, hein ? C'est
un peu creux, quoi, vous voulez dire ?
Ah non, c'est du plastique... C'est du solide, quoi. Voilà. Donc c'est Garfield.
Donc c'était à l'époque où le plastique était de bonne qualité, entre guillemets ?
Voilà. Qualité extraordinaire, 40 ans de présence dans l'eau, comme neuf. Voilà le bestiau. C'est un gros chat désagréable, de couleur jaune. Ça, oui, c'est un autre marqueur, c'est des distributeurs de lames. Et donc, on a identifié notamment un modèle Gillette Blue des années 60, dont on a déjà trouvé plusieurs dizaines. Donc, on se dit qu'on est peut-être sur la trace d'un autre container.
Donc, tout ça, ça repart.
Tout ça, c'est du Garfield. Ça va dans le local.
Donc au local, en tant que quoi, archive du...
Archive de cette pollution dont on est les témoins, on est les gardiens, et on a ça à disposition de scientifiques qui voudraient en faire quelque chose. On a déjà eu des Garfield qui sont partis dans des projets artistiques, donc il y en a un qui est au musée de Berlin, ainsi qu'une fiole allemande de 1941, puisque c'est un musée qui parle de l'homme, de l'évolution de l'homme, etc. Et donc on a ce Garfield qui est au Conseil de l'Europe. On a aussi un Garfield qui est dans une galerie d'art à Paris. Donc on a aussi les artistes qui nous contactent. Alors les artistes, bah, on leur donne des Garfield, mais on aimerait bien qu'il y ait les scientifiques. Et pour l'instant, pas trop.